Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Le débrief par Radio VFM et Foot Normand, deuxième partie à suivre. Bonjour à vous si vous nous rejoignez en cours de route. Notre 16e épisode de la saison est un peu spécial puisqu'il est centré sur la Coupe Gambardella, terrain de jeu privilégié des U18 de France et de Navarre, une compétition où Caen, Le Havre et Avranches seront tous les trois encore en lice lors des 8e de finale qui se tiendront dimanche prochain. On a parlé de Malherbe en première partie, on évoque désormais le hack avec mon camarade du jour, Mathieu Billot, la tête pensante de Foot Normand, est toujours présent au studio. Salut à toi Mathieu.
Salut Aurélien, salut à tous.
Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand.
Dimanche prochain, les U18 du Havre se rendront à Lyon-la-Duchère au stade Balmont pour disputer leur 8e de finale de Coupe Gambardella. Pour aborder ce déplacement, nous avons le plaisir d'accueillir l'entraîneur de la jeunesse Ciel et Marine, directeur du centre de formation du HAC et coach de l'équipe des U19 nationaux du club doyen, François Rodriguez. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, François. On prend directement la température auprès de vous. C'est quoi l'état d'esprit avant d'aborder un huitième de finale de Coupe Gambardella?
Dans un premier temps, on va tous se réunir à partir de demain, puisque vous savez que les garçons qui évoluent avec la réserve, les garçons qui sont en 19, voire des garçons qui sont avec les 17, c'est une semaine un petit peu particulière. Donc c'est une semaine où tout le monde va se réunir. Afin d'aborder cette rencontre de dimanche prochain. Voilà.
Oui, parce que donc du coup, si on comprend bien, François, forcément, c'est des garçons qui s'entraînent peut-être habituellement dans des groupes d'entraînement différents. Certains avec la réserve avec Mickaël Lebaïf en N3, certains avec toi en U19, et puis peut-être que tu as même 2-3 jeunes qui sont en U17, hein, je ne sais pas. Mais c'est un peu ça l'idée du coup, quoi.
Oui, parce qu'on a, comme tu l'as évoqué, on a des garçons qui sont nés en 2005, sur lequel on mise beaucoup d'espoir, c'est une génération importante pour nous, et qui, comme tu l'as aussi mentionné, est en mesure de jouer à la fois sur les trois catégories U17, U19, voire réserve, puisque le petit Nseke évolue déjà avec la réserve.
Il était d'ailleurs ce week-end, il était titulaire avec la N3, hein, je crois, contre Évreux.
Entendu, c'est exactement ça.
Ouais. Hein, on rappelle hein, pour la particularité de la Gambardella, encore une fois, comme on l'a dit dans la première partie, mais pour ceux qui n'écouteraient, les supporters Ciel et Marine, qui n'écouteraient que cette partie-là, la particularité de la Gambardella, c'est que c'est réservé aux U18 cette année. Et donc forcément, il y a des garçons qui peuvent jouer en championnat U19, mais qui ne peuvent pas jouer en Gambardella U18. Donc voilà pour...
Ouais, c'est l'exclusion des 2003, en fait.
c'est ça. Bah, malheureusement pour eux, on rappelle aussi que la Gambardella n'a pas eu lieu les deux dernières saisons. Il y a 2 ans, elle n'a pas été au terme à cause de la crise sanitaire. Et la saison dernière, elle a carrément et purement été annulée.
Ouais, tout simplement. Alors François, c'est un rendez-vous forcément d'importance. C'est un huitième de finale. Comment on prépare les joueurs à cet événement, si besoin est de les préparer? Je parle évidemment du plan mental et de la motivation.
C'est important effectivement, puisque on sort complètement du contexte entre guillemets formation, même si pour eux on les attend un petit peu au tournant, parce qu'ils doivent et ils devront dans quelques jours affronter aussi toutes leurs émotions, parce que vous savez, il y a une forme de pression qui s'installe. On rentre en huitième, vous l'avez également mentionné, une porte pour l'écart, ça se présente pas tous les jours comme ça, donc forcément on va se préparer d'une façon un petit peu différente, et on va rentrer dans un contexte de groupe professionnel où là les joueurs vont se retrouver à travailler toute la semaine ensemble, un groupe qui va être constitué de 20 joueurs dans lequel on va instaurer aussi une forme de concurrence, parce que il va falloir aussi gagner sa place sur le terrain, mais aussi dans le groupe. Et à partir de là, on va rentrer dans un contexte où on va être plus dans l'observation de l'équipe. On va essayer de mettre en place des stratégies, on va essayer d'analyser l'adversaire de façon un petit peu plus pointue. Et puis aussi à évoquer avec les joueurs tout ce qu'on pourra mettre en place pour, espérons, s'offrir un quart de finale à la maison. Voilà. C'est l'objectif.
Ouais. On va juste rappeler que pour en arriver là, donc vous avez battu Chantilly, qui était une formation de R2 au premier tour, fédéral, 7-0, que vous êtes imposé en région parisienne, à Torcy, qui est une référence en matière de jeunes et de formation en région parisienne, qui est d'ailleurs leur équipe est U19, évolue au plan national. Vous avez gagné 4-1. Et forcément, il y a ce match dont on a beaucoup entendu parler au tour précédent, en 16e de finale. Cette victoire contre le PSG, dans une cave verte pleine à craquer, comme rarement on l'avait vu ces dernières années. 1-0, ouais. On en a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce qu'il en reste de ce match? C'était il y a deux semaines. Qu'est-ce qu'il en reste de ce match, François?
Ben, entre-temps, il y a eu des matchs de championnat où on est rentré dans une formule formation, où les joueurs se sont un petit peu dispersés à droite et à gauche, comme vous l'avez, on l'a évoqué précédemment. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est déjà beaucoup de fierté par rapport au match que les joueurs ont réalisé et où, à quel niveau ils ont élevé leur niveau et le curseur. Donc il va falloir absolument, parce que on évoquera peut-être l'adversaire de dimanche, mais c'est pas parce qu'on a battu le Paris Saint-Germain devant notre public, on peut le dire, sur ce match, on était vraiment soutenu par le 13e homme. On va se retrouver dans un contexte complètement différent. Mais quand on bat le Paris Saint-Germain chez soi, compte tenu de la qualité de cet adversaire, on se doit d'avoir aussi des ambitions. Et ce n'est aucunement prétentieux de dire que, à partir du moment où on a réalisé ce type de performance avec l'engagement que les joueurs ont mis, avec le degré d'investissement, si on était amené à craindre cette équipe de Lyon, là, il y a des choses que je ne comprendrais pas. Donc moi, ce que je souhaite absolument, c'est que le niveau d'investissement, la motivation et surtout ce qui a dégagé de cette équipe soit de nouveau présent dimanche contre Lyon-Duchère. Maintenant, le football n'est pas une science infuse. On se doit en tout cas de tout faire pour passer le tour. On a bien sûr confiance en cette équipe qui a montré beaucoup de bonnes choses contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est un autre match, un autre contexte, une autre équipe, une autre organisation. On doit se mettre au niveau pour passer ce tour. On se doit de tout faire pour passer ce tour. Voilà.
Avant de revenir un peu plus en détail hein, sur le huitième de finale justement contre Lyon-Duchère, je voulais juste te demander forcément, quand on met PSG, quel que soit le domaine d'ailleurs, dans un sujet, ça prend une connotation nationale, hein, tu es bien placé pour le savoir, parce qu'on rappelle qu'avant de revenir au Havre, où tu avais déjà officié, tu as été éducateur au PSG, notamment sur la catégorie U19 d'ailleurs, où tu avais atteint une finale de Youth League, la Ligue des Champions des Jeunes, si je ne me trompe pas.
C'est exact.
Voilà. Là, on a vu quand même que depuis votre victoire, on voit quand même quelques articles poindre à droite, à gauche, mentionnant l'intérêt supposé de certaines équipes pour certains de vos jeunes. On va dire que je pense que le travail des représentants et des agents fonctionne à plein pot dans cette période. Est-ce qu'il y a aussi ce paramètre-là un petit peu à gérer? Parce que forcément, ça peut peut-être un petit peu perturber vos jeunes hein, qui voient des intérêts X ou Y. Est-ce que c'est à prendre en considération ou vous essayez de mettre ça vraiment de côté?
Là, c'est ma deuxième casquette que tu évoques, c'est celle de directeur du centre. Donc, on sait pas, c'est pas non plus un scoop ou quoi que ce soit. Me défausser un petit peu du débat. C'est vrai qu'on a quelques garçons qui sont répertoriés. On sait qu'on a aussi des garçons de qualité, des garçons qui ont un avenir, je dirais, bien tracé pour le haut niveau. Maintenant, on doit aussi leur faire prendre conscience que redonner à leur club formateur est aussi quelque chose d'important et qu'on essaye d'établir un état de confiance entre les agents qui sont des incontournables, les joueurs, les familles et puis le club. Et il faut aussi mentionner qu'on a la chance d'avoir au Havre un manager général qui fait jouer les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, le jeune au Havre, même s'il a du talent, il sait que tôt ou tard, il sera amené à jouer avec l'équipe première si, bien évidemment, il continuait à performer. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Voilà. Parce que c'est pas toujours le cas. Et donc, aujourd'hui, les garçons que tu évoques, on les a déjà rencontrés. Ils savent qu'il y a un vrai projet sportif qui leur a été proposé. Maintenant, effectivement, c'est une question de confiance. J'espère que demain, ces joueurs qui ont été ciblés seront en mesure de signer dans notre club et surtout de renforcer notre équipe première.
Ouais, s'ils regardent ces jeunes dans le rétroviseur, ils pourront constater qu'il y a eu des parcours au Havre ces dernières années. Alors ça commence à dater, les vraies grandes épopées. Deux demi-finales de suite, Mathieu, 2008-2009, avec des noms qui avaient participé à ces éditions de la Gambardella.
Je te laisse citer quelques-uns. Des garçons qui sont devenus professionnels. Il y en a un d'ailleurs en 2008 qui est toujours dans le club, un des emblèmes un petit peu du hack, hein, Jean-Pascal Fontaine. Mais on avait aussi des garçons comme Jean Armel avec Canabillic, Florent Hanin qui évolue aujourd'hui au Paris FC. Bon, le hack après c'est un club formateur depuis des années, des décennies même on pourrait dire. Mais voilà, il y a de quoi, il y a des exemples à suivre pour cette nouvelle génération estampillée 2022 du hack.
Oui, tout à fait. On a une génération 2005 et 2004 qui est cohérente. Maintenant, ce que je retiendrai surtout, moi, c'est la force de cette équipe qui a été dégagée contre Paris. Et ça, c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était plus dans la prestation individuelle pour se montrer à travers, des observateurs qui étaient présents à la Cave Verte, tu l'as mentionné. Et moult clubs européens étaient présents. Mais ce qui m'a plu, c'est que tout le monde a mis ses qualités au service du collectif et on a dégagé une vraie force qui a, je dirais, presque mérité sa qualification contre Paris, parce que on a été d'une telle intensité de la première à la 90e minute que même, bon, tu l'as mentionné, j'ai travaillé à Paris, je connais encore un petit peu de monde, et ils étaient aussi très, très surpris de l'intensité imposée à leurs joueurs. Voilà.
Alors entre le 16e de finale contre le PSG, le 8e de finale qui s'annonce contre Lyon-la-Duchère, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Cette Coupe Gambardella, on peut le rappeler Mathieu, c'est une compétition qui mélange, comme la Coupe de France, les clubs professionnels et les clubs amateurs. Lyon-Duchère n'est pas un club professionnel. François, le Havre arrive avec une étiquette de favori, en tout cas c'est de l'extérieur, on le voit comme tel. Est-ce que c'est pas le danger immédiat finalement pour les jeunes joueurs?
Je suis tout à fait d'accord avec toi. On se retrouve dans une étiquette qui est complètement différente du tour précédent. Mmh. Il faut quand même remettre un peu le contexte sur ce club de Lyon-Duchère. Et d'une part parce que la région Rhône-Alpes fournit d'excellents joueurs de football. On le voit à travers l'OL, mais aussi Saint-Etienne, qui sont deux clubs référence en termes de formation. Et que les joueurs qui passent à travers les mailles sur ces deux grands clubs qu'on vient de citer sont souvent happés par ce club de Lyon-Duchère. Et globalement, vous regardez les championnats, ils sont toujours bien placés. Et pour avoir déjà pu observer cette équipe, je peux vous garantir qu'il y a des joueurs qui mériteraient déjà dans des centres de formation. Donc j'ai envie de les comparer un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure à ce club de Torcy, parce qu'à Torcy il y avait aussi, c'est un peu le contexte, hein. On va se retrouver dans la même configuration avec, je pense, un schéma de match quasiment identique. Je vous rappelle quand même qu'à Torcy, à 10 minutes de la fin, il n'y avait que 2-1 pour le Havre, hein, et qu'on a subi une forte pression à ce moment-là. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, bien sûr qu'on va y aller avec le titre de favori, mais moi on doit l'assumer. Vous l'avez dit, il faut qu'on y aille comme ça. Maintenant, respectons cette équipe, mettons en place les mêmes valeurs que doivent se dégager d'un sport collectif comme le football, et puis après on verra. Mais en tout cas, il faut qu'on respecte cette équipe et qu'on soit très très vigilant à leur talent, parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Voilà.
François, en point de vue logistique, hein, forcément, hein, c'est un déplacement à Lyon, c'est pas anodin. Est-ce que vous partez la veille? Est-ce que vous partez le jour même? Comment ça se passe un petit peu?
Ben, on va partir la veille. Hein, on a décidé, on va réunir les garçons samedi matin, pour tout te dire. On va faire un petit entraînement à la Cave Verte. Derrière, on va prendre le bus jusqu'à Paris et prendre le TGV jusqu'à Lyon. Et on va faire la même chose après le match dimanche soir. Mmh. Et on se met, comme je te l'ai dit, dans un contexte de match de haut niveau, de joueurs professionnels. On part la veille. Oui, c'est un choix du club.
Mmh. Ouais, donc c'est la Gambardella, c'est l'aventure aussi de tout un club. Hein. C'est pas seulement 20 jeunes qui partent avec leur éducateur. Hein. Ça demande des moyens. Le club met des moyens aussi à disposition de cette équipe-là pour aborder ce rendez-vous dans les meilleures dispositions possibles.
Oui, c'est exactement ça. Et puis forcément, hein, tu l'as dit, il se crée une ébullition au sein du club. Les présidents sont très attentifs à ce qui se passe. Le manager, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc faire un parcours en Gambardella, c'est toujours très intéressant, à la fois pour la formation, c'est la vitrine, toujours. Et puis, à l'intérieur du club. Ça fait toujours plaisir à nos dirigeants de qu'on puisse évoquer les joueurs, l'équipe et le club.
Alors oui François, c'est la vitrine et le sujet que je vais aborder, je sais qu'on l'a déjà évoqué ensemble, c'est aussi l'occasion pour vous éducateurs de voir où en sont vos joueurs sur la gestion émotionnelle de certains grands rendez-vous, certains matchs importants, acquis ou double. C'est aussi important de voir comment ils se positionnent sur ce plan-là.
Exactement, exactement, parce que moi c'est le facteur le plus important. Vous savez, quand ils vont devenir professionnels dans quelques années, dans quelques mois pour les plus précoces, on va leur demander de gagner. Au-delà de la prestation, hein, comment on a bien joué, on n'a pas bien joué, le football professionnel demande des résultats et être compétitif et on doit en faire des compétiteurs. Et on sait qu'on a des joueurs de talent, voilà, comme beaucoup il y a en France, mais ceux qui parviendront à franchir le dernier palier, c'est le palier émotionnel, c'est le palier où ils doivent rehausser leur niveau de jeu pour le week-end. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a commencé cette année, et ça va être pérennisé, je pense, l'année prochaine, optimiser la performance avec un accompagnement mental sur ces nouvelles générations qui, je pense, en ont besoin. On a de moins en moins, je trouve, de joueurs avec une certaine grinta qu'on avait il y a quelques temps. Donc, je trouve, hein, personnellement, qu'on doit développer ça au sein de notre formation française. Et en tout cas, moi, j'ai constaté qu'au Havre, ce qui était une des valeurs essentielles sur mon premier passage, avait été un petit peu délaissé pour évoquer une forme de beau jeu. Mais n'oublions pas que, avant tout, le sport de haut niveau, c'est être compétitif et avec des compétiteurs. Voilà.
Et si on rebondit un petit peu sur ces propos-là, qu'est-ce qu'on met en place concrètement au HAC, au centre de formation, pour travailler cet aspect mental?
Alors, écoute, on a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on s'est doté d'un préparateur mental, voilà, qui vient observer ce qui se passe dans les séances, qui vient observer les comportements des uns et des autres à travers des jeux à l'entraînement. Et c'est dès l'entraînement qu'on doit développer ça, sur des jeux, des exercices, mais tout un process. Et puis aussi, demain, il faudra aussi qu'on développe aussi les profils des joueurs qu'on veut recruter. Parce que des fois, on fait du recrutement en observation sur un terrain, mais on ne connaît pas la personne. Et je pense qu'il est important, lorsque le joueur correspond techniquement à ce que l'on souhaite, sur le niveau footballistique, il est important de creuser un petit peu et de connaître le personnage, l'homme, l'adolescent, qu'il sera l'homme qu'il sera plus tard, à travers, je dirais, une identification de cette personne. Je pense que c'est important aujourd'hui. Et en tout cas, nous, de notre côté, on est persuadé que cette étape doit nous faire franchir un cap aussi pour améliorer notre formation.
Bon, pour vous revenir un petit peu à ce match, ce huitième de finale de Gambardella, c'est aussi un rendez-vous particulier pour toi, François. On a dit, hein, t'as déjà atteint une finale de Youth League avec le PSG, il y a eu des titres, hein, je crois, en championnat de France. Mais la Gambardella, c'est pas une compétition qui t'a souvent réussi jusqu'à présent. Dans ton long parcours d'éducateur, qui t'a aussi mené du côté du Stade Malherbe. Donc du coup, c'est aussi un petit rendez-vous un petit peu particulier pour toi.
C'est tout à fait, tu as raison de le mentionner. J'ai eu la chance d'avoir des équipes et des promotions exceptionnelles à Paris qui m'ont fait gagner des titres nationaux en U19 et en U17. Une finale de Youth League à Caen. J'ai eu aussi des très bons joueurs, mais j'ai jamais réussi à faire un grand parcours. Écoute, on ne sait jamais. C'est peut-être la bonne année. En tout cas, sache que pour ma part, je suis très motivé. J'essaie de transmettre des valeurs importantes à travers toujours notre projet de jeu, parce qu'on ne doit pas en démordre. Mais le plus important, c'est que je sais que si on arrive à maintenir le niveau d'intensité que l'on a mis lors du match contre Paris, on a de fortes chances de passer. Maintenant, c'est là où je les attends, les garçons, au tournant. Mais pour revenir à ta question préalable, oui, effectivement, pour l'instant, la Gambardella et moi, c'est pas une histoire d'amour, on va dire, hein, puisque on est sur la Saint-Valentin, donc j'en profite pour en glisser ce petit mot. Voilà.
Avant de clore le chapitre à vrai, Mathieu, tu seras au stade Océane ce soir pour la rencontre entre les Ciel et Marines et le SC Bastia. Est-ce que c'est précipité de dire que la victoire est impérative face aux Corses pour croire encore au barrage?
Moi, je n'aime pas trop ces mots impératifs, sauf quand ils s'imposent vraiment au sens premier du terme. Voilà, le HAC a la possibilité, en s'imposant ce soir contre Bastia, de revenir à un point de la cinquième place qui est détenue aujourd'hui par Auxerre. Derrière, il reste à 14 journées, donc il n'y a rien d'irrémédiable. Mais forcément... on va dire que Auxerre n'a pas une moyenne de points exceptionnelle depuis le début de l'année 2022. C'est aussi un petit peu le cas du HAC. Et donc voilà, c'est une opportunité de recoller et de se donner le droit d'avoir une fin de saison palpitante. Voilà, c'est une opportunité, c'en est une. Faut pas trop en gâcher. Il y a certainement encore des cartouches d'ici la fin de saison. Mais forcément, une petite victoire, ça, voilà, puis ça donnerait un bon exemple à suivre pour les jeunes joueurs de François pour dimanche prochain.
Ouais, des Havrais qui jouent après un week-end assez favorable. Nulle surprise d'Auxerre contre la Lanterne Rouge Nancy et le revers assez inattendu d'Ajaccio à domicile contre Guingamp. Voilà qui met fin à cette partie sur le Havre. François Rodriguez, on vous souhaite d'ores et déjà un bon déplacement à Lyon. Merci d'avoir été notre invité.
Non, c'est avec plaisir toujours d'évoquer la formation, qu'elle soit normande ou nationale. C'est toujours des sujets qui m'intéressent, donc c'était un plaisir pour moi d'être avec vous sur cette fin de matinée.
Eh bien, bonne chance à vous et à vos joueurs. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour la troisième et dernière partie de ce débrief consacré à l'invité surprise de ces huitièmes de finale côté normand, l'US Avranches, Mont-Saint-Michel.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.